Chapitre 4. À quoi ça ressemble d'avoir un job à la con ? Sur la violence spirituelle, 2. Selon le discours officiel, nous autres occidentaux vivons dans des démocraties et jouissons de droits fondamentaux, alors que d'autres sont plus infortunés. Privés de liberté, ils doivent subir le joug d'États policiers. Ces victimes obéissent, sous peine du pire, aux ordres, quel qu'en soit l'arbitraire. Les autorités les maintiennent sous une surveillance permanente. Les bureaucrates à la solde de l'État contrôlent jusqu'au moindre détail de la vie quotidienne. Les dirigeants qui les harcèlent n'ont à répondre qu'à leurs propres supérieurs, dans le secteur public comme dans le privé. Dans les deux cas, la dissidence et la désobéissance sont punies. Des délateurs informent régulièrement les autorités. On nous présente tout cela comme étant le mal. Et en effet, cette vision est effroyable, même si ce n'est rien d'autre qu'une description universelle de l'entreprise moderne. Bob Black. Travailler, moi, jamais. Au chapitre précédent, nous nous sommes demandé pourquoi être payé à ne rien faire est si souvent vécu comme une expérience exaspérante, insupportable ou accablante, y compris lorsqu'on a par ailleurs de très bonnes conditions de travail. La réponse, nous l'avons vu, révèle sur la nature humaine certaines vérités que néglige largement la science économique et même le bon sens populaire le plus cynique. Ainsi, les humains sont des êtres sociaux qui s'atrophient, voire se décomposent physiquement dès qu'ils sont privés de contacts réguliers avec leurs semblables. Leur sentiment de pouvoir provoquer des effets prévisibles sur le monde qui les entoure et les autres êtres est ce qui leur permet de se concevoir comme des entités autonomes et distinctes. Confisquez-leur ce sentiment et ils ne sont plus rien. Autre enseignement. Les jobs à la con produisent un retournement contre elles-mêmes de la capacité de l'homme à la simulation, alors que celle-ci devrait être vue comme la forme suprême d'action humaine, surtout quand les mondes imaginaires ainsi créés accèdent, d'une certaine façon, à la réalité. C'est pourquoi j'ai voulu enquêter sur l'histoire du travail de pure forme et les origines sociales et intellectuelles de l'idée selon laquelle le temps d'une personne peut appartenir à une autre. Comment un employeur en vient-il à juger moralement condamnable le désœuvrement de ses salariés, même lorsqu'ils n'ont manifestement rien à faire ? Être forcé de faire semblant de travailler est exaspérant, parce que cela révèle à quel point vous êtes sous la coupe de quelqu'un d'autre. Or, les jobs à la con sont intégralement fondés sur cette logique. Si vous travaillez, ou faites mine de travailler, ce n'est pas pour une bonne raison, en tout cas, aucune qui ne vous vienne spontanément à l'esprit. C'est pour le principe. Pas surprenant que cela vous reste en travers de la gorge. Toutefois, il existe une différence essentielle entre le type qui a un job à la con et le plongeur obligé de récurer les plaintes. Dans le second cas, le tyran est identifiable. Le plongeur sait qui le malmène. Il peut diriger sa colère contre quelqu'un. Dans un job à la con, c'est rarement aussi évident. Qui exactement vous oblige à faire semblant de travailler ? L'entreprise ? La société en général ? Une étrange combinaison de conventions sociales et de forces économiques, décrétant qu'une personne qui ne travaille pas ne devrait se voir accorder aucun moyen d'existence, même s'il n'y a pas suffisamment de boulot réel pour tout le monde ? C'est un aspect central des témoignages que j'ai collectés. L'insupportable ambiguïté. Vous êtes confronté à quelque chose de terrible, de ridicule, de scandaleux, mais vous ignorez si vous avez le droit d'en faire état. Et généralement, vous savez encore moins qui ou quoi incriminer. Pourquoi avoir un job à la con n'est pas toujours si terrible ? Avant d'explorer ces sujets, il nous faut préciser que tous ceux qui occupent des jobs à la con ne sont pas nécessairement malheureux. Comme je l'ai signalé plus haut, j'ai reçu une poignée de témoignages essentiellement positifs qui m'étaient adressés par des personnes très contentes de leur job à la con. Identifier des récurrences à partir d'un échantillon si réduit est difficile, mais on peut tenter de dégager quelques grandes lignes. Warren. Je suis professeur suppléant dans une école publique du Connecticut. Mon boulot consiste simplement à faire acte de présence et à m'assurer que les élèves sont concentrés sur leurs devoirs, quels qu'ils soient. Il est extrêmement rare que les profs me laissent des instructions pour faire cours. Cela dit, moi ça me va très bien. Ça me laisse plein de temps pour lire et apprendre le chinois, et puis j'ai parfois des conversations enrichissantes avec les élèves. Peut-être qu'il y aurait un moyen de faire l'économie de mon job, mais pour l'instant, ça me convient. Peut-on seulement dire qu'il s'agit d'un job à la con? C'est discutable. L'enseignement public actuel est organisé de telle façon qu'il faut effectivement quelqu'un pour surveiller les classes lorsqu'un prof est malade. Ce qui apparente le boulot de Warren à un job à la con, c'est qu'on semble juger important de laisser croire qu'il est là pour enseigner, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. L'objectif est sans doute que les élèves soient plus enclins à respecter son autorité quand il leur ordonne de se calmer et de se mettre au travail. Le fait que sa fonction ne soit pas totalement inutile y aide aussi certainement. Autre dimension cruciale, le job n'est pas encadré. Il est varié, offre des possibilités d'interaction sociale et permet à son titulaire de passer beaucoup de temps à faire ce qu'il aime. Enfin, il est clair que Warren n'envisage pas de rester dans ce poste jusqu'à la fin de ses jours. Autrement dit, comme job à la con, on peut difficilement trouver mieux. Les bureaucraties à l'ancienne recèlent également des emplois qui peuvent être fort plaisants, même lorsqu'ils ne servent pas à grand-chose. C'est le cas notamment s'ils s'inscrivent dans une belle et prestigieuse tradition. Par exemple, la fonction publique française. Voyez Pauline, agent du fisc à Grenoble. Pauline. Je suis conseiller technique en insolvabilité dans un ministère qui serait l'équivalent de l'Inland Revenue britannique. Environ 5% de ma tâche est de donner des conseils techniques. Le reste de la journée, j'explique à mes collègues des procédures incompréhensibles, je les aide à trouver des directives qui ne servent à rien, je motive les troupes et je réattribue des dossiers que le système a mal dirigés. Curieusement, j'aime aller au travail. J'ai l'impression que je suis payé 60 000 $ par an pour faire l'équivalent d'un sudoku ou de mots croisés. On trouve de moins en moins d'administrations publiques de ce genre où règne une ambiance insouciante et décontractée. Elles étaient extrêmement répandues au milieu du XXe siècle, avant que les efforts de rationalisation des services publics, la réinvention du gouvernement, comme disait l'administration Clinton, ne transforment les fonctionnaires en simples cocheurs de cases. Pauline semble prendre plaisir à son job, parce qu'elle s'entend bien avec ses collègues et gère son temps à sa guise. Ajoutez à cela le respect qu'on lui témoigne, la sécurité d'un emploi public et sa lucidité sur la bêtise de tout ce cinéma, et d'un coup, ce n'est plus vraiment un problème. Ces deux exemples partagent encore un trait commun. Le risque de désenchantement et de confusion y est très faible, dans la mesure où personne n'ignore que professeur suppléant, aux États-Unis, et agent du fisc, en France, sont fondamentalement des jobs à la con. Ceux qui postulent pour ces emplois savent très bien à quoi ils s'engagent, au point probablement d'avoir à l'esprit des schémas culturels précis sur la façon dont ils sont censés s'y comporter. Il semble donc bien exister quelques happy few satisfaits de leur job à la con. Difficile, cependant, d'estimer le pourcentage qu'ils représentent. Selon l'enquête de YouGov auprès de la population active britannique, si 37% pensent que leur travail ne sert à rien, seulement 33% le qualifient de peu épanouissant. Logiquement, cela veut dire qu'au moins 4% des travailleurs jugent leur boulot absurde, mais l'aiment bien quand même. Le chiffre réel est sans doute un peu plus élevé. Évidemment, cela suppose qu'aucune des personnes interrogées n'ait répondu que son emploi était à la fois utile et peu épanouissant. On peut raisonnablement penser que c'est le cas. Dans le sondage néerlandais, cette proportion est légèrement supérieure, puisque 18 des 40% de travailleurs disant avoir un job absurde affirment aussi en retirer une certaine forme de satisfaction. Je suis sûr que chaque situation individuelle peut s'expliquer par un tas de raisons. Certaines personnes trouvent la vie de famille si odieuse ou si oppressante que toutes les excuses sont bonnes pour y échapper. D'autres, tout simplement, apprécient la compagnie de leurs collègues, les commérages et la camaraderie. Aujourd'hui, dans les grandes métropoles nord-atlantiques, les classes moyennes passent tant de temps au travail qu'elles n'ont plus guère de liens sociaux en dehors. Par conséquent, le tissu de cancans et de petites intrigues, celui qui divertit au quotidien les habitants des villages, des villes moyennes ou des quartiers urbains très soudés, y reste majoritairement enclos, quand il existe, à l'intérieur des limites du bureau, ou bien se vit par procuration sur les réseaux sociaux, consulté majoritairement au travail tandis que les gens font semblant de bosser. Si la vie sociale s'enracine autant que cela au bureau, il est d'autant plus saisissant qu'une telle proportion de travailleurs se disent malheureux dans leur job à la con.